À travers une série d'émissions, Il est écrit vous a proposé de découvrir ou de redécouvrir les 10 paroles, le décalogue, qu'on appelle plus communément les 10 commandements. Des paroles intemporelles qui ont traversé les siècles et qui demeurent aujourd'hui encore des points de repère solides sur le plan moral, spirituel, pour guider notre relation avec Dieu et avec les autres. Et nous voilà arrivés à la fin de ce parcours, et avec mes invités, nous allons réfléchir aujourd'hui sur le sens de la 10e, dernière parole, moins connue, mais pas moins importante. « Tu ne convoiteras point ». Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la 10e et dernière parole du décalogue. La dernière, mais pas la moindre, comme je disais en introduction, et aujourd'hui encore pour réfléchir à ce texte profond qui peut certainement inspirer nos vies, je reçois mes amis, France d'abord, qui est une habituée
bonjour,
de l'émission.
Rémi.
Bonjour France. N'Goy qui nous vient de Québec. Bonjour N'Goy.
Bonjour Rémi.
Et Patrick qui a fait le déplacement depuis l'Estrie. Bonjour Patrick.
Bonjour Rémi.
Dixième parole, donc, qui nous dit, et on va commencer par la lire, parce que, comme je disais en introduction, elle est peut-être un petit peu moins connue que d'autres. Exode, chapitre 20, verset 17. « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. » Donc, tu ne convoiteras pas. Et alors, la première chose qui apparaît quand on lit ce texte, c'est que, surtout au début, il y a comme un petit air de déjà-vu. Hein? Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Ça fait penser à tu ne déroberas pas.
Ouais.
Voilà. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ça fait penser à
l'adultère.
À l'adultère. Et alors, la question qui vient, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que Dieu, en donnant ces 10 paroles, ressent le besoin à la fin de revenir, en quelque sorte, sur quelque chose qui nous a presque déjà dit. N'Goy.
Dans les deux paroles qui concernent le vol et l'adultère, ces deux paroles donnent les actes. Tu ne feras pas tel acte ou tel autre acte. Alors que ici, ce qui est mentionné, ça donne plutôt une sorte de sentiment ou de motivation de ces actes. D'ailleurs, lorsqu'on le lit dans Exode, le mot qui est utilisé pour convoitise, qui est le mot ham, il a comme origine ou racine proche du mot chaleur, la chaleur du feu. Et dans Deutéronome chapitre 5, il est question de hiva, qui est le désir. Et dans les deux cas, on peut le traduire dans Exode comme tu ne chopperas pas l'envie de prendre quelque chose d'autre. C'est-à-dire que nous avons toujours le désir ou l'envie de quelque chose, mais nous ne devons pas la surchauffer au-delà de ce qui est nécessaire. Et dans le désir dans Deutéronome, c'est comme si le texte est en train de dire « Tu ne vas pas consumer le désir de vouloir prendre quelque chose qui est à autrui. » Donc là, on s'attaque vraiment à la motivation qui est au plus profond de nous-mêmes lorsque nous mettons des actes tels que ceux qui sont mentionnés dans la 7e et la 8e parole.
Alors, c'est très intéressant ce que tu partages. Et effectivement, moi aussi, quand je lis ça, j'ai l'impression de voir la 10e parole un peu comme une clé de compréhension que Dieu nous donne. Comme s'il nous disait, attention, vous venez là d'entendre 9 paroles et vous pourriez penser que vous êtes à peu près correct hein, parce que vous n'avez pas tué, vous n'avez pas volé. Non. Mais Dieu nous dit, attention, le bien ou le mal ne se situe pas au niveau de l'acte,
ouais,
mais au niveau de l'intention, de la pensée intérieure. C'est bien comme ça que vous le comprenez
ouais.
aussi?
Tout à fait. Et je pense que la 10e parole nous envoie nécessairement, de par la façon dont elle est écrite, à une introspection sur nous-mêmes. Et le constat qui s'ensuit, j'ose croire, c'est de réaliser que face à cette parole, on est en échec. Et on est en échec parce qu'en quelque part, en nous, il y a toujours un désir d'obtenir, d'avoir davantage. Et il y a toujours aussi cette réflexion à savoir, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas dans le contentement? Et pourquoi est-ce que je suis habité par un sentiment d'insatisfaction qui vient et qui part?
Qu'est-ce que c'est exactement la convoitise, si on doit la définir?
Bien, moi, je dirais la convoitise, c'est vraiment de vouloir quelque chose que l'on n'a pas.
Mais ça, c'est pas mauvais. Hein? Il y a des choses qu'on n'a pas.
Mais la différence, c'est que la convoitise, c'est que ça devient une obsession. Ça devient tellement intense que tu es malheureux parce que tu ne l'as pas. Puis c'est que tu focuses là-dessus constamment jusqu'à ce que tu l'aies. C'est dans ton esprit tout le temps, tout le temps. Donc, c'est là que la convoitise est néfaste pour la personne. Et moi, je voulais ajouter aussi que dans tous les commandements, je trouve que c'est celui qui est le plus qu'on perçoit le moins, dans le sens que si on vole, notre conscience nous accuse, si on commet l'adultère, si on ment, on sait tout ça. Mais la convoitise, parfois, on n'est même pas conscient qu'on est dans la convoitise. Et parfois, le drapeau rouge, c'est quand on devient malheureux. Et là, il faut se réveiller, il faut se dire, bon, si je n'ai pas mon chalet sur le bord de l'eau, je vais-tu être malheureuse comme ça toute ma vie? C'est ce que tu disais, Patrick, je pense que c'est important d'être contenté de ce que nous avons parce que là, on trouve la paix dans ce que nous possédons.
Alors, on va revenir sur cette idée du contentement parce que je crois qu'elle est vraiment très, très importante. Il y a quand même une chose aussi que je voudrais qu'on remarque, c'est que dans le texte, il est dit, il n'est pas dit « tu ne convoiteras pas de maison » ou « tu ne convoiteras pas de femme ». Bien qu'on aurait peut-être pu le formuler comme ça, mais la parole dit « tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ». Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc, c'est dans la série de paroles qui concerne aussi ma relation avec les autres.
En fait, pour approfondir sur la parole de France, c'est-à-dire que la convoitise, ça ne se limite pas juste à vouloir quelque chose qu'on n'a pas. En fait, ça se limite aussi à dire qu'on veut quelque chose qui n'est pas nécessaire. Parce qu'exemple, je possède déjà une maison et maintenant, je veux avoir une maison qui est plus grande, plus luxueuse, comme celle de mon voisin. Le danger dans la convoitise, c'est toujours l'aspect social qui nous amène à se comparer les uns et les autres, et ça nous amène à un état d'insatisfaction parce qu'on voudrait avoir plus comme notre prochain.
Il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ce que tu dis, Patrick. Je lisais récemment un commentaire sur cette parole, et puis l'auteur disait, le problème avec la convoitise, c'est que quand je convoite la maison de mon prochain ou la femme de mon prochain ou quoi que ce soit de mon prochain n'est plus mon prochain. Il devient un rival. Il devient quelqu'un qui est un obstacle, en quelque
sorte. Avec qui je compétitionne.
Exactement, oui.
Mais en fait, l'idée du prochain est très importante dans l'équilibre social, selon le texte. Parce qu'il dit, tu ne convoiteras pas, dans Exode, tu ne convoiteras pas la maison et puis la femme. Mm-hmm. Dans Deutéronome, tu ne convoiteras pas la femme et puis la
c'est
maison.
C'est ça, c'est dans l'autre sens.
Et ici, l'idée qu'il y a, c'est que tu arrives à avoir ce désir qui brûle à l'intérieur, de sorte que tu vas vouloir jusqu'à aller t'approprier ce qui appartient à l'autre et lui en priver pour que toi, tu puisses en jouir.
La racine du vol, c'est la convoitise. La racine de l'adultère, c'est la convoitise. Oui. Ça se passe à l'intérieur.
Donc, tu prives à l'autre ce dont il a droit, ce qui lui appartient, pour que vous puissiez devenir, vous, mieux que lui. Et c'est ce texte-là qui le montre très clairement en luttant non pas avec des paroles qui sont extérieures, mais plutôt en attaquant la racine du problème. C'est-à-dire que lorsque nous ne sommes pas dans cette capacité relationnelle d'être satisfaits de ce que nous avons, il y a la tentation d'apprécier ce qui est à l'extérieur, certes qui est beau, hein, parce que le texte biblique montre aussi que ce qu'on désire ou ce qu'on convoite, ce ne sont pas des choses laides, ce sont des choses qui sont belles, qui peuvent nous attirer. Et une fois qu'elles nous ont attirés, elles créent en nous, par les yeux, par toutes sortes de par nos sens, une envie qui ne nous permet plus d'être en équilibre jusqu'au moment où nous allons déposséder l'autre pour nous contenter, nous.
Ce qui est extraordinairement difficile par rapport à cette parole, et tout à l'heure, Patrick, tu l'as dit, on ne peut pas par nous-mêmes, c'est non seulement que nous avons en nous certains germes de cette convoitise qui remonte à l'origine, mais aussi qu'on vit dans un monde qui est presque basé là-dessus.
Oui, on est dans une société, comme on disait, capitaliste. On est dans une société de consommation. Et on le voit avec la COVID, hein, on ne peut plus rien consommer. Les gens sont dépressifs et ils ne savent plus quoi faire. Mais on est vraiment assaillis constamment par l'idée d'obtenir ceci, d'acheter cela, d'avoir ceci. Donc, ça nourrit avoir des biens, des richesses, bien sûr, mais aussi parfois des postes élevés. On nourrit dans la société cette idée qu'il faut toujours avoir, avoir, avoir. Puis si on réussit, c'est si on a réussi à avoir ceci, 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 cela. C'est comme une mentalité qu'on a inculquée à la société.
Et qui est peut-être particulièrement vraie dans les pays développés, hein, en Amérique du Nord.
Oui, surtout, surtout. Donc, la convoitise, c'est vraiment le commandement qui est le plus sollicité dans une société comme ça.
N'Gai qui veut réagir.
Oui, mais moi, je dirais que c'est beaucoup plus subtil. J'allais presque dire, nous sommes victimes de ce système-là ou du mode de vie. Parce que si on prend le texte de Genèse avec le péché d'Adam
et
Ève...
Alors, on peut y aller parce que c'est quand même un texte fondateur.
Donc,
on
voit très bien le mécanisme.
Alors, Genèse 3.
Genèse chapitre 3. Oui, dans le chapitre 3, même si on ne le lit pas en entier, on va découvrir les mécanismes du fonctionnement. C'est-à-dire, d'abord, on dit que la femme vit que l'arbre et le fruit de l'arbre étaient beaux à voir.
Alors, on peut lire chapitre 3, verset 6. Et peut-être même qu'on devrait commencer un tout petit peu avant, parce qu'il y a une forme de convoitise aussi qui est mentionnée, à partir du verset 4. Donc, c'est le serpent qui parle. On sait que derrière le serpent, il y a notre ennemi à tous. Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. »
Oui, donc là, on voit très clairement que la convoitise commence, il y a les yeux, donc le regard que nous portons sur ce qui est beau. Il faut insister là-dessus. Et ensuite, il y a les goûts qui sont éveillés. Il y a son intelligence, parce qu'elle rêve déjà de devenir Dieu.
Oui, c'est ce qu'on lui a promis, c'est ce que le serpent lui a promis.
Exactement, donc il y a les éléments. Et si nous prenons ce schéma, nous le retrouvons aujourd'hui. Donc, quoi de plus beau que de voir qu'il y a une belle voiture, une belle maison. Et les yeux nous le disent. Et ensuite, ça crée en nous une sorte d'appétit. Et cet appétit-là va faire en sorte que notre intellect va fonctionner avec ce désir-là, et nous serons satisfaits une fois que nous serons en possession de cela. Donc, cette dixième parole est en train de nous dire, ne tombez pas dans le fait de vous échauffer au-delà, ne vous consumez pas comme par le feu, de sorte que les yeux, le goût et votre intellect puissent soient déraisonnables, de sorte que vous fassiez des actes qui ne sont pas convenables pour vous.
Tu as dit il y a un instant... Dans la convoitise, on pense qu'on ne sera satisfait qu'au moment où on obtient ce qu'on désire.
Oui.
La réalité, c'est qu'on n'est pas satisfait une fois qu'on l'a.
Ben non.
Oui.
Mm-hmm. Parce que le principe même de la convoitise, c'est qu'elle elle se nourrit sans cesse de nouveaux objets.
Mm-hmm. Ben, en fait, on pourrait dire que oui, il y a une forme de satisfaction, mais elle est éphémère, elle est temporaire, elle est passagère. Et elle conduit à un appétit qui est toujours grandissant, où il y a un gouffre sans fin. Et en fait, la dixième parole, en ce qui me concerne, c'est probablement celle qui est la plus confrontante, parce que, comme je disais un peu plus tôt, elle nous met devant les exigences de Dieu, son désir pour nous, mais en même temps, par l'entremise d'une introspection et d'une réflexion, on se dit, ben moi, je suis pris là-dedans, j'y arriverai jamais. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'opportunité de mieux comprendre comment Dieu veut nous aider à arriver à un niveau de contentement et de satisfaction par rapport aux choses que nous possédons, les choses qu'on a besoin, qui sont légitimes et que Dieu veut nous aider à obtenir, et à trouver cet équilibre dans la vie entre les choses que je veux qui sont importantes, nécessaires à mon bien-être, les choses qui sont peut-être un luxe auquel je peux m'abstenir ou même me priver, qui vont peut-être pas me faire du bien. Mais tout ça, pour moi, Rémi, ça vient d'une relation avec Christ dans lequel Dieu nous donne du discernement, de la sagesse.
Il est capable d'analyser ce qu'on vit et ce qu'on ressent.
Exactement, de prendre du recul et de dire, OK, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette chose-là? Est-ce que cette chose-là va vraiment me rendre heureux?
Est-ce que c'est légitime ou est-ce que c'est pas légitime?
Exactement. Alors, la réflexion n'est pas mauvaise en soi. Je pense que la réflexion, elle est importante. Mais pour le chrétien et dans la dynamique chrétienne, c'est important de se nourrir à la fois de ce que Jésus enseigne dans la Bible, mais aussi de ce contact conscient que nous avons avec Dieu qui nous donne de la sagesse et du discernement par rapport à nos choix, par rapport à nos désirs, ce qu'on veut et ce qu'on n'a pas de besoin.
Alors, en lien avec le contentement, il y a ce texte dont on parlait en préparant l'émission où l'apôtre Paul parle de son expérience. Et peut-être on pourrait le lire ensemble. J'aimerais qu'on puisse les uns les autres réagir un tout petit peu à ces paroles de l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 4. Il écrit donc l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe et il leur dit au verset 12 « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. »
La dernière phrase en dit beaucoup.
C'est intéressant parce que cette phrase, d'ailleurs, on ne sait pas toujours quel est le contexte. Hein. Les chrétiens connaissent bien cette dernière phrase, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». On ne sait pas toujours que ça vient après
cette
parole où il dit « Je sais vivre dans l'humiliation, dans l'abondance, à être rassasié, à avoir faim. » Comment vous réagissez à cette parole de l'apôtre Paul?
En fait, moi, j'ai réagi à cela par des exemples concrets. Je suis toujours impressionné lorsque je vais dans mon pays d'origine, le Congo, et que je vois les gens qui sont contents pour un fruit, une mangue, et ils passent leur journée heureux. Et le contraste que je vois avec mes enfants, lorsqu'ils étaient encore petits, qui, ouvrant leur frigidaire ou la boîte ou l'endroit où nous gardons les céréales, ils doivent chercher la marque de céréales pour qu'ils soient heureux. Donc, c'est le fait de se contenter d'une journée ensoleillée, c'est déjà en soi quelque chose. Donc, c'est avoir la capacité d'apprécier l'environnement dans lequel nous sommes. Et parfois, nous passons à côté parce que nous n'apprécions pas le fait que nous pouvons nous réveiller et avoir le souffle de vie et avoir le soleil, parcourir de chemins où on peut voir de la neige qui donne cette blancheur. C'est cet aspect-là d'admiration ou de contemplation des choses qui nous manquent.
Il y a une forme de liberté dans ce que tu es en train de nous dire, une forme de liberté où je n'ai pas besoin toujours.
C'est ça.
Hein, il faut relativiser aussi le contentement d'une personne à une autre, éviter les jeux de comparaison. On n'a pas tous l'opportunité d'être élevés dans le même contexte socio-économique. On a tous de l'apprentissage à faire par rapport à l'enseignement biblique, à la relation qu'on a avec le Christ. Et Dieu est patient avec nous lorsqu'il veut nous aider à parvenir à ce qu'on pourrait appeler le contentement chrétien ou la satisfaction qui vient d'une relation avec Jésus. Et je pense que c'est important de nuancer. Ce n'est pas un moule dans lequel on veut mettre tous et chacun, mais je pense qu'il y a une progression à vivre dans notre relation avec Christ par rapport à qu'est-ce que ça veut dire d'être satisfait intérieurement avec Dieu et d'être dans une forme de contentement dont il est question dans la Bible.
Mais quoi qu'il en soit, c'est à l'intérieur que ça se passe, dans notre relation avec Dieu.
Définitivement.
Et
c'est par lui qu'on est fort, la dernière parole le dit.
Alors, on arrive là, on a presque fini, on arrive à la fin de cette réflexion sur les 10 paroles. J'aurais aimé qu'en terminant, chacun d'entre nous puisse dire ce qu'il retient de ces 10 paroles, ce qu'il voudrait garder, ce qu'il voudrait peut-être partager, en quoi ces 10 paroles sont des paroles fortes et nécessaires encore aujourd'hui.
Moi, personnellement, ce que je voudrais qu'on retienne puis que les auditeurs retiennent, ça, c'est mon aspect à moi, en ayant travaillé avec les 10 commandements, il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Souvent, on s'arrête à la lettre de la loi et souvent, cette loi-là, elle est exigée et imposée, alors que quand on comprend que c'est, tout est dans l'intériorisation, notre relation avec Dieu, l'amour, l'Esprit de Dieu en nous qui nous rend capable d'appliquer dans nos vies les 10 paroles, toujours par amour et par l'Esprit. C'est toute une différence. Donc, la lettre et l'Esprit, donc, il faut comprendre l'Esprit de la loi pour pouvoir bien la vivre.
Ngoy?
Pour moi, c'est la notion d'appartenance. Parce que dès le début de ces 10 paroles, il faut voir l'introduction, « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et là, il y a une triple relation. La relation avec Dieu, qui s'appelle ton Dieu, la relation avec moi-même, l'intériorisation de cette parole, telle que nous venons de le voir avec la convoitise, et aussi l'entretien de la relation avec le prochain, ton prochain. Et le mot « ton prochain » revient souvent dans le texte. Donc, cette appartenance qui est gérée dans une bonne relation, c'est ce que je retiens dans les 10 paroles.
Patrick?
Jérémy, je suis en train de poursuivre mon doctorat à l'université et puis je me rends compte que l'encadrement, c'est un moyen exceptionnel pour le développement et la progression. Alors, le fait d'être encadré dans mes études, le fait d'avoir du mentorat, c'est quelque chose qui m'aide à me développer au niveau académique. Les 10 commandements, les 10 paroles sont donnés par Dieu un peu et entre autres dans ce contexte-là. Un désir de nous voir progresser, de nous voir nous développer en tant que chrétiens pour mieux être et mieux vivre. Et Dieu, en nous donnant cet encadrement-là, qui sont les 10 paroles, se présente également en mentorat pour nous dire « Je vais t'aider à te développer et à progresser à l'intérieur de ce cadre-là pour ton bien-être. » On ne nous dit pas que ça va être parfait, on ne nous dit pas que ça va être facile, mais on nous dit qu'avec Dieu, ça va être mieux.
Avec Dieu, ça va être mieux, comme tu le dis. Et ça m'amène, moi, à ma conclusion, qui sera simplement un texte des Écritures, tiré du prophète Jérémie, au chapitre 31, où Dieu dit « Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Prions ensemble. Mon Père du ciel, merci. Merci de nous avoir donné ces paroles qui nous éclairent, ces paroles qui nous font réfléchir, qui nous remettent en question, qui nous libèrent, qui nous poussent aussi vers toi parce qu'on est bien conscient qu'il faut que ce soit toi qui écrives ta loi dans notre cœur. Merci pour Jésus qui nous a montré comment la vivre et merci pour l'assurance que tu vas nous aider un jour à la fois à mettre en pratique ces paroles libératrice, ces paroles d'amour et de justice. Sois avec nous qui sommes ici sur ce plateau et qui voulons vivre selon ta volonté, sois avec chacun de nos auditeurs et que notre plus grande joie soit de faire le bien, de faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Puisqu'on arrive à la fin de cette série sur les 10 paroles, on a donc choisi de proposer à nouveau à nos auditeurs ce petit fascicule intitulé justement le Décalogue.
Oui, oui, c'est pour conclure. En fait, on conclut avec ce qu'on avait offert au tout début de la série, qui était justement ce petit fascicule, le Décalogue. Et c'est exceptionnel. Hein? On l'a bien précisé dès le départ que c'est exceptionnel qu'on l'offre gratuitement parce que c'est quand même une étude que toi, tu as préparée plusieurs pages. Normalement, ce petit livre se détaille à 10 $. Mais là, on l'offre encore gratuitement, mais
en promotion,
il faut en profiter parce que ça ne sera pas éternel.
Dans le cadre de la série.
Donc, dans quelques semaines, on va devoir payer des frais de 10 $ pour l'obtenir. Donc, profitez-en. Le Décalogue qui a été fait par Rémi, c'est une étude complète sur les 10 paroles, en fait.
Donc, en les prenant une par une, ouais, en essayant d'en dégager le sens.
Bien approfondir.
Voilà, donc nos auditeurs pourront en profiter. Et puis, tu as une question, justement, d'un auditeur.
Oui, c'est l'auditeur, c'est Israël, qui est en fait un étudiant de la Bible dans nos cours en ligne que nous avons sur le net, qui fait le cours Découverte, qui nous demande, selon le récit biblique de la Genèse, l'homme et la femme ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quelle est donc l'image de Dieu et en quoi consiste-t-elle?
En quoi consiste le fait que nous soyons à l'image de Dieu. C'est sûr que c'est quelque chose qui nous dépasse un petit peu parce que Dieu est Dieu, mais pourtant, on doit lui ressembler d'une manière ou d'une autre.
Oui, certainement.
Qu'est-ce que tu aurais répondu à ça, toi, France?
Bien, moi, c'est sûr que j'aurais répondu que quand on compare avec toute la création, seul l'être humain est capable d'aimer, de parler, de communiquer, de décider, de réfléchir, d'analyser. Donc, on a l'aspect de l'intelligence, de la communication, de l'amour qui n'existe pas pour le reste de la création.
Certains pourraient te contester quand même ça, le fait que les animaux ne puissent pas aimer, parce qu'on dit, bon, il y a une certaine manière, ils peuvent aussi échanger...
Une relation quand même.
Une forme de relation, d'affection. Ouais. Mais effectivement, Dieu a créé l'homme avec cette capacité de choisir, choisir librement, d'organiser, de planifier. Et puis, je crois que probablement la meilleure réponse reste celle qu'on trouve dans la première lettre de Jean, chapitre 4, où Jean parle aux chrétiens et il dit ceci, versets 7 et 8. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc, il y a cette idée que Dieu, fondamentalement, il est amour, et puis l'être humain est capable d'aimer, mais pas simplement d'aimer son voisin ou son conjoint, ses enfants, mais d'aimer Dieu.
Oui, absolument.
D'être en relation avec Dieu.
Avec son Créateur.
Et ça, c'est vraiment unique. Mm-hmm. Je pense que le fait que nous ayons été créés à son image, c'est essentiellement le fait que nous ayons cette dimension spirituelle.
Vraiment une dimension différente. Ça. La spiritualité, la relation avec Dieu, il n'y a pas d'autre créature qui
l'est. Je crois que c'est vraiment ce qui fait la différence. Alors, bien sûr, pour pouvoir avoir cette relation, ça implique effectivement d'avoir la capacité de penser d'une manière élaborée. Mm-hmm. Ça implique toutes sortes de choses. Mais finalement, au plus profond, le but de Dieu, c'est que nous puissions aimer comme lui, il aime, l'aimer comme il nous aime, nous aimer les uns les autres comme il nous aime aussi. Et c'est en lien direct avec...
Oui, c'est ça ce que j'étais pour dire. Ça conclut bien avec la série des 10 paroles.
Qui sont des paroles d'amour et de justice. Voilà ce qu'on peut dire en deux mots à notre auditeur. Puis tu nous rappelles l'offre de la semaine.
Oui, c'est le décalogue gratuit pour quelques jours encore.
Alors, profitez-en, demandez votre exemplaire gratuit de ce livret intitulé « Le décalogue ». Voici comment le faire.
Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, Figuretal, Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestecrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal.
Merci de nous avoir suivis encore aujourd'hui. Je vous rappelle que toute notre série sur les 10 paroles est disponible sur notre site internet ilestecrit.tv. Vous rendez sur le site, vous cherchez dans les séries thématiques et vous allez trouver l'ensemble de nos émissions consacrées aux 10 paroles. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».